Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, lobo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé. Xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Reconhecémonos todas mulleres.
Bonjour, la révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une invitée, c'est Fadila Maroufi. Bonjour.
Bonjour.
Et voilà, comme promis, en fait, je l'avais annoncé une première fois et puis on s'était raté parce qu'on devait se faire une interview téléphonique. Et en fait, il y a eu des petits problèmes techniques. Et du coup, c'est un mal pour un bien parce que, en fait, Fadila, tu m'as dit que tu viendrais à Marseille. Et du coup, voilà, on s'est connus à travers les réseaux sociaux d'abord. Et puis là, on s'est rencontrés. Et puis, on a énormément discuté depuis hier. Et aujourd'hui, tu es là au studio pour cette émission. Donc, je vais juste introduire le sujet de pourquoi tu es là. Et pourquoi, en fait, j'ai eu envie de te faire venir. En fait, c'est parce que tu as publié... récemment, tu as fait une publication qui m'a interpellée, qui s'intitule « Quand le néo-féminisme efface les vraies victimes, ce que nous subissons ici ». Je vais juste lire les premières lignes, puisque après, évidemment, je ne vais pas m'amuser à lire cette publication parce que tu es là, mais juste pour qu'on comprenne quel était le but de cet article. Donc, tu as écrit « Le néo-féminisme intersectionnel en vogue aujourd'hui fait de nous, femmes de culture musulmane, attachées aux valeurs universelles laïques, vivant sous la pression des islamistes, des invisibles. Les violences que nous subissons ne sont pas recensées dans les statistiques. On en parle rarement dans les reportages. Il n'y a pas de happening pour nous soutenir. Pourtant, en dénonçant l'islamisme, nous risquons notre vie. Nous ne cessons de recevoir des menaces de mort, des insultes, des messages obscènes, abjects. Qui nous entend ? Où porter plainte ? Et voilà, donc j'ai été très sensible à cette publication et je me suis dit, bien moi, je t'entends. Et je t'invite dans cette émission, puisque effectivement, pour ceux qui suivent l'émission, mais moi je défends les valeurs universelles, laïques, du féminisme. Donc je ne fais pas partie des néo-féminismes que tu dénonces, mais je connais ces nouveaux courants relativistes. Je les dénonce aussi. J'ai dans mes émissions, si vous regardez les podcasts, tenté de parler de l'islam politique, tenté de parler du combat contre le voilement des femmes. Et j'ai souvent porté la parole justement de nombreuses femmes dans le monde de culture musulmane qui sont comme toi attachées aux valeurs universalistes et qui combattent l'islam politique, qui combattent le voilement et qu'on n'entend pas, je le sais aussi, j'ai remarqué. Et du coup, je les fais parler à travers cette émission. Mais c'est encore mieux de les faire venir. Et surtout que, effectivement, maintenant, je vais te laisser te présenter. Hein. Je vais pas tenir, je vais simplement animer et rebondir et parler avec toi. Mais tu as beaucoup de choses à dire. Tu es juste dire que tu es directrice et porte-parole de Haut Bruxelles, une plateforme de l'Observatoire des fondamentalismes religieux à Bruxelles, donc. Et donc, tu vas expliquer tout ça. Et voilà. Bon, je pense que je vais te laisser la parole, du coup.
Merci beaucoup, en tout cas, et merci pour l'invitation. Mais comme tu le disais, en fait, c'est qu'effectivement, il y a énormément de femmes comme moi qui veulent parler, qui veulent dénoncer et qui le dénoncent. Un peu plus en France, évidemment, où effectivement, vous avez plus de personnalités, plus de femmes qui de plus en plus ouvrent le débat, osent dénoncer, osent exprimer en fait ce qu'elles ont vécu ou est-ce qu'elles vivent. C'est vrai que c'est plus compliqué en Belgique. Et pour ma part, moi je suis donc, comme tu l'as dit et comme tu m'as présenté, donc Fadila Maroufi, directrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Moi je vais commencer par parler de mon expérience parce qu'il me semble que justement, en tout cas en Belgique, on a des difficultés où on ne veut pas nous entendre et c'est pour ça que cet appel que tu as lu, qui a été relié sur Facebook, c'était aussi une manière pour moi de dire maintenant ça suffit, il faut qu'on nous laisse de plus en plus aussi de place pour nous exprimer et que c'est pas forcément ces personnes que vous êtes en train de mettre en avant qui finalement mettent en avant plus une idéologie et qui participent finalement à la censure de la réalité, de ce que nous vivons. Donc moi en fait je suis à la base, donc je suis bruxelloise, hein, je suis troisième génération, je suis issue d'une famille d'origine maghrébine, de marocaine plus précisément, l'aînée de 8 enfants. Et c'est vrai qu'au départ, que ce soit les grands-parents ou mes parents, bah, quand en Belgique, ils vivaient bah, comme tout le monde, à la mode de l'époque, années 70, pas de def, mini-jupe, etc. Donc il n'y avait pas cette emprise du religieux, ni cette pression qu'on va pouvoir voir apparaître, en tout cas que moi je vais subir et je vais observer autour de moi. Donc je viens d'un quartier bruxellois, puisque Bruxelles n'est pas grand. Et il y a différents quartiers, différentes communes, 19 communes plus précisément, et nous avons quelques communes où une majorité de personnes marocaines, en général c'est vraiment une majorité plus marocaine, et puis nous avons quelques quartiers comme Scarbec, Saint-Josse, où c'est plutôt une grosse communauté turque à la base. Donc moi je venais d'une commune qui était à côté de Molenbeek. Il faut dire que pour nous, aller d'une commune à une autre, aller jusqu'au centre-ville, c'est très rapide. C'est des distances que nous pouvons faire à pied. C'est pas comme à Paris où il faut prendre le RER, etc. pour se déplacer d'un coin à l'autre. Mmh. À Bruxelles, c'est plus accessible. Alors moi, quand je vais grandir, tout d'abord, ce qui est important de dire, c'est que dans le quartier dans lequel je vivais, il y avait des personnes, des belgo-belges qui y vivaient au départ, dans les années 80. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'il va y avoir des générations, troisième génération, quatrième génération, on va voir en fait, voir que les personnes même d'origine maghrébine et musulmane, de confession musulmane, sont très agressives, violentes vis-à-vis des personnes belgo-belges. On est, en fait, dans la communauté, dans le quartier, on est éduqué, en fait, à ne pas aimer l'autre, à détester l'autre, dans le sens où on va nous dire, ben, lui, c'est un impur, c'est un mécréant, c'est un porc. Donc c'est tous des termes en fait que les petits, nous enfants, l'éducation familiale, mais aussi donc au sein des familles, et puis il y a aussi le religieux qui petit à petit, avec les subventions d'abord qui viendront au départ de l'extérieur, hein, on sait de l'Arabie Saoudite, enfin de tous les Émirats arabes, etc., ou des pays d'origine. Donc il y a ce financement et vouloir inculquer un islam à la base wahhabite, et aussi frères musulmans. Donc ils vont être présents sur le terrain, des mosquées vont commencer à émerger, la plupart des familles vont mettre leurs enfants parce que c'est une manière, après l'école, le mercredi après-midi, les week-ends, samedi, dimanche, les enfants... Ils ont une éducation religieuse, on va dire, entre guillemets, mais on leur inculque aussi certains points comme le séparatisme entre les filles et les garçons, l'importance pour une fille de porter le voile, le fait de ne pas porter le voile, ça nous emmène en enfer. On nous décrit l'enfer d'une manière très précise, mais qui est effrayante pour un enfant que nous sommes.
Donc c'est ce que tu as... Ouais, j'en revenais donc c'est pas, ce que, donc voilà... hier, déjà tu m'as expliqué ça et oui, j'en
donc
revenais
voilà, donc
pas
il y a,
en fait.
Donc il y a une éducation qui est présente, donc... et qui finalement, nous en tant qu'enfants, on va intégrer, on va grandir avec ça. Mmh. Et finalement, on va voir que nos générations, nous qui allons grandir et qu'on aura eu cette éducation, on deviendra méprisant, rejetant vis-à-vis des autres qui sont si différents, qui ne sont pas musulmans. Mmh. Et petit à petit, dans ces quartiers, on va voir les personnes belgo-belges, on va dire, qui vont quitter le quartier parce qu'ils se feront agresser, ils se feront insulter. Mmh. Donc, ils n'ont plus leur place, en fait, dans ces quartiers. Mmh. Et donc, on va voir aussi grandir de plus en plus, apparaître la consommation de drogue, la vente de drogue, donc du shit, etc. On sait que donc la communauté maghrébine dans ces différents quartiers à Bruxelles sont issus surtout d'une population à la base rifaine qui vient du nord du Maroc, où quand même la drogue, c'est le fonds de commerce. Et donc on va voir apparaître tout ça, qui va faire finalement que ça va que alimenter le communautarisme et l'entrisme. On va voir... Évidemment, les religieux qui vont commencer à prendre de plus en plus leur place et qui vont être plutôt l'autorité dans les quartiers. Et donc, finalement, tout va finir par se distinguer entre ce qui est de l'ordre du haram ou du halal, c'est-à-dire de l'interdit et de ce qui est permis en islam. Les filles,
en fonction de ça.
Voilà. En tant que fille, on sera plus, on sera renvoyé en fait à rester à la maison, à être éduquée, à faire le ménage, à être des futures bonnes épouses. Le projet en fait dans les familles pour les filles, c'est surtout de maintenir la fille, de maintenir en fait la pudeur. L'honneur de la famille, et pour
elle
cela
doit être vierge.
Voilà, tout à fait, rester vierge, etc. Donc ça, c'est vraiment l'absolu, c'est ce qui est important. Et donc, et les garçons par contre, eux, ils sont plutôt dehors, ils sortent, on les laisse faire ce qu'ils veulent, ils ont une emprise aussi sur les filles, donc c'est lui qui doit assurer aussi et surveiller sa sœur et les filles de la communauté pour que justement elles ne salissent pas cet honneur. Et donc finalement, ils vont jouer le rôle de l'autorité, et on va voir aussi du coup une violence vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des filles. Il y a énormément de violence au sein des familles, on n'en parle pas non plus. En tant que travailleuse sociale, par la suite, je vais le percevoir, je vais comprendre pas mal de choses aussi, je vais mettre en lien avec le vécu en tant qu'enfant, le vécu de ce que j'ai pu voir chez mes camarades aussi filles. Entre nous, on parlait beaucoup, étant jeunes, on voyait les violences chez nos camarades ou au sein de nos familles. Mais ce qui était assez étonnant, c'est qu'on n'en parlait pas, c'est que personne n'en parlait. Au sein de la communauté, tout était tabou. On ne parlait pas de sexualité, on ne parlait pas de toutes ces choses, on ne parlait pas, on pouvait pas non plus parler de l'enfer et de paradis ouvertement avec les mécréants. Donc, il y a beaucoup de choses.
Parce qu'ils utilisent vraiment ce terme, donc comme éducation religieuse, mécréant. Ça m'a
tout à
vraiment.
Fait.
Je trouvais ça incroyable, mais j'oublie que la plupart des religions, enfin peut-être considèrent les non-croyants de leur religion comme des mécréants, mais c'est quelque chose qu'on a un peu oublié dans la religion catholique, peut-être on le rappelle pas, enfin on l'utilise plus trop. Et par contre, donc là, en islam, on dit mécréant pour les non-musulmans.
Tout à fait. Donc dans tous ces différents lieux et au niveau dans les populations et dans les familles, encore une fois, les autres ce sont les mécréants. C'est soit les mécréants, les chrétiens, mais c'est en majorité c'est plus mécréant que chrétien en réalité. Il faut surtout pas leur ressembler. Nous, on a la religion, il faut suivre la religion, on ne peut pas la perdre, etc. Donc, il y a cette idée, à chaque fois, de rappel. Pourtant, au départ, quand on regarde les premières générations, et les deuxièmes, même générations, au début, les deuxièmes générations, n'étaient pas très regardantes.
Tes parents, par exemple, n'avaient pas eu cette éducation.
Voilà, c'est ça. Ils vivaient avec tout le monde, et leur objectif, c'était vraiment, finalement, de venir travailler, de vivre avec les autres, de faire ce qu'ils avaient à faire. Et puis, finalement, il y avait l'idée du retour au pays, et il n'y avait pas cet ancrage. Mais petit à petit, on va voir que, notamment avec certains courants fondamentalistes islamistes, qui vont commencer aussi à utiliser finalement...
Ils se sont installés donc, en Belgique, donc tu dis, dans ces années-là
dans les années 70, voilà. Puis, dans les années 80, ça va se renforcer, et ainsi de suite. Donc, eux vont ramener un autre concept qui va dire finalement, puisque vous êtes perdus comme vous êtes perdus, quand vous allez au Maroc, vous n'êtes pas marocain, quand vous êtes en Belgique, vous n'êtes pas belge. En réalité, vous êtes musulman. Donc, il y a cette identité.
Ça devient l'identité.
Voilà. Donc, on nous colle une identité qui est finalement, vous êtes musulman. Et pour la communauté l'Oumma, il faut rester solidaire, il faut rester unis. Et travaillons dans cette union. Et donc, finalement...
C'est ce qu'ils disent les imams dans leur enseignement.
L'Oumma, c'est tout à fait. C'est vraiment ce qui est présent. Et ils sont même très virulents parce qu'on voit apparaître... il y a des discours sur notamment la communauté juive, qui sont considérés comme des traîtres, comme ceux qu'il faut éliminer. Donc, on était très négatif. Non, donc l'antisémitisme qui est très présent aussi, ça fait partie, on va dire, de ce qu'on nous a inculqué à ce moment-là. Donc, on voit par exemple que les insultes majeures, c'est dire sale juif, entre gamins, traiter les autres de juifs, de sale juif, etc. Et c'est vraiment une insulte suprême, c'est-à-dire que c'est très mal vécu par ces jeunes-là. Donc, c'est pas étonnant finalement que petit à petit, on installe une haine, un rejet des autres. Donc, finalement, c'est inculqué, mais sans qu'on s'en rende compte. Et alors, soit on se pose des questions en tant qu'enfant, et finalement, on ose les poser, et souvent, on nous rebroie en disant c'est dans l'islam, t'as rien à dire, c'est comme ça, il faut écouter, il faut pratiquer, il faut suivre l'islam, point barre. Soit on suit, et on se dit, on se pose plus de questions, soit on se pose quand même des sérieuses questions.
Toi, tu t'en posais.
Et moi, j'en posais beaucoup. Ce qui dérangeait énormément les professeurs de religion islamique, notamment, même dans les écoles, puisque en Belgique, nous avons les écoles communales, on a des cours de religion. Donc musulmane, juive, catholique, morale.
Ouais, moi, je pensais que c'est des cours de religion, d'histoire des religions. Moi, c'est ça que j'imaginais en fait. C'est pas ça. Donc c'est vraiment la religion. Quoi.
Exactement. Et donc chaque communauté vers la religion dans laquelle les parents ont choisi parce qu'on a. On s'inscrit. Et donc, forcément, moi, j'étais en religion musulmane en primaire. Donc, je ne sais pas en France à quoi ça correspond, mais bon, quand on a 6 ans, de 6 à 12 ans, on suit les cours de religion.
En France, il n'y a pas, heureusement. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est un État laïque, donc nous, on n'a pas les cours de religion dans les écoles publiques.
Voilà. Et ce qui n'est pas plus mal, parce que finalement, quand on voit, la seule chose qui a amené, c'est que... il n'y avait pas de juifs, en fait, dans les classes. C'est comme ça qu'on pouvait percevoir aussi qui faisait partie de la classe. Les jeunes de confession juive n'y étaient pas, parce que, de toute manière, quand il y en avait, et évidemment, dans mon expérience, j'ai pu voir et observer toute la discrimination et la haine qu'une personne de confession juive, qu'un jeune de confession juive pouvait subir. Et souvent, ils ne restaient pas un an de plus. Et après, ils allaient dans ces écoles juives avec, évidemment, vous avez des militaires, vous avez des policiers, c'est barricadé.
Même ça, je pense, c'est important de l'entendre. Jamais j'aurais imaginé qu'actuellement en Belgique, si tu ne me l'avais pas dit là, que les juifs sont obligés d'aller dans des écoles juives parce que sinon ils ne sont pas en sécurité et que même il y a des, comme tu dis, des sécurités, des policiers pour... Mais c'est fou!
Oui, et pourtant, c'est très grave, mais ça s'est tellement banalisé en Belgique que c'est considéré comme normal, en fait. Finalement, on ne se pose même plus la question. Et moi, je trouve ça grave qu'arriver à un moment où on ne se pose plus la question, on ne se dit normal qu'il y ait une communauté qui soit obligée de quitter des lieux, parce que même Bruxelles, on avait des quartiers où il y avait énormément de, enfin, il y avait quand même pas mal de personnes de confession juive qui sont parties, qui ont quitté, qui sont maintenant en Anvers, ou qui ont même quitté complètement pour aller vers d'autres pays, soit en Israël ou même dans d'autres pays ailleurs.
Mmh. Et donc, et l'antisémitisme, voilà, on n'en parle pas trop du coup en Belgique, quoi.
C'est pas
dénoncé. Il y a personne qui dit qu'il y a un gros problème.
Alors il y a des chercheurs qui en ont parlé récemment, en fait, qui ont sorti une étude de Joël Kotek et Joël Tournemen, qui ont donc une étude publiée par la Fondation Jean Jaurès, hein, qui dit que les musulmans auraient 3 fois plus de préjugés antisémites, homophobes et sexistes que les athées. Et donc, c'est une étude qui a été faite, notamment une enquête auprès des différents établissements en Belgique, où on a interviewé des étudiants sur ces différentes questions. Et finalement, cette étude-là est passée dans un premier journal en Belgique, mais il n'a pas fait tant de vagues que ça. Personne n'a été choqué, personne n'a été interpellé. Et d'autres journaux n'ont pas... ça n'a pas été relayé. Il a fallu attendre pratiquement, je dirais, 6 mois pour qu'un autre journal en parle aussi. Mais même ça n'a pas fait de vagues. Donc, on n'en parle pas vraiment... toutes ces questions-là, finalement, sont banalisées et sont mises de côté. Ce qui est extrêmement grave, parce que finalement, ça maintient toujours, en fait, la population dans l'ignorance de ce qui se passe réellement sur son territoire. Et finalement, on ne se pose pas la question de qu'est-ce qui sépare réellement. Donc, quand on parle... On va voir que, évidemment, que ce soit dans les années 90, notamment, l'islamisme est de plus en plus présent. Et surtout quand on voit ce qui s'est passé en Algérie, ce qui va avoir un impact avec le Front islamique du salut et les années noires en Algérie. Après les années noires, il y a énormément de personnes d'islamistes de terroristes qui vont fuir l'Algérie pour venir finalement vivre en Europe, notamment à Bruxelles.
Se réfugier
à Bruxelles.
Et en fait, il n'y a pas de problème, on les accueille.
Et on les accueille. D'ailleurs, ça a posé problème dans le sens où moi, quand je vais aller un moment au Maroc pour parler sur le changement du code de la famille marocaine, des gens qui travaillent au Maroc me diront « Mais qu'est-ce que vous faites en Europe ? Vous accueillez des terroristes ? Qu'est-ce que vous ne faites rien ? Votre pays ne fait rien, ne réagit pas ? »
Je l'ai su récemment aussi par une autre algérienne qui me l'a appris. Je ne savais pas que les islamistes ont pu se réfugier aussi en France. On leur accordait l'accueil politique. Je n'en reviens pas même de ça, faut le dire. Mais comment c'est possible ? Alors que les militantes algériennes, par exemple, qui luttaient contre ces islamistes, si elles n'avaient pas la défense à l'époque, on m'a dit, des militantes féministes universalistes pour qu'elles aient le droit à le visa et qu'elles puissent se réfugier en France, elles n'auraient jamais pu trouver l'accueil en France. Donc elles avaient besoin d'être défendues par des associations féministes. Par contre, les islamistes, eux, pas de problème. C'est des choses que vraiment...
C'est complètement aberrant. Et donc c'est vrai qu'en tant que fille issue de la communauté, quand on grandit dans ce milieu, on comprend rapidement en fait que finalement la fille n'a pas vraiment de droit. Et donc même en étant dans un pays libre comme la Belgique démocratique ou même comme la France, mais je vais parler plus de la Belgique, où quand on se dit normalement on devrait être protégé et on fait énormément d'allers-retours au pays d'origine. Et moi je me rends bien compte à ce moment-là qu'il y a une différence de traitement pour les filles et je sens bien qu'en Belgique j'ai une chance de pouvoir m'en sortir si je poursuis mes études, si je réussis dans mes études, j'ai une chance de pouvoir dire non, je ne veux pas de ça, je ne veux pas être esclave, je ne veux pas être soumise, je veux pouvoir m'exprimer librement. Donc moi je vais grandir avec cette idée finalement qu'en Belgique j'ai une chance inouïe, que nous avons des droits entre les hommes et les femmes, on est tous égaux, mais il s'avère que, je vais me rendre très rapidement plus tard, que finalement les islamistes prospèrent, que l'idéologie islamiste, qu'ils soient frères musulmans ou wahhabites, va continuer encore à prospérer.
On les laisse prospérer.
Et on les laisse complètement tout à fait. Et que tout ce qui se passe au sein des familles, on ne le dénonce pas. On n'ose pas le dénoncer pour une question aussi électorale. Soyons clairs qu'à ce moment-là, on avait quand même des partis de gauche, et je pense que c'est pareil un peu pour vous, des partis de gauche, évidemment, qui avaient trouvé leur nouvelle défense, leur nouveau prolétaire. Et donc, finalement, on ne pouvait rien dire, on ne pouvait pas dénoncer. On s'appuyait sur les imams pour faire autorité, ce qui était assez grave parce que ça leur donnait du pouvoir. Merci. Donc finalement, la communauté musulmane maghrébine, la seule chose, leur autorité, c'était l'imam. Donc finalement, quelque part, la religion, le religieux passe au-dessus des lois. Quand on a eu des émeutes, différentes émeutes sur Bruxelles, sur le territoire de Bruxelles, on a fait appel évidemment aux imams pour calmer.
Donc le gouvernement fait appel aux imams.
Voilà, les maires en fait. Voilà, les maires. Exactement. Donc les maires font appel à eux. Ça continue encore à l'heure actuelle. Hein, on continue sur cette voie-là. Ça n'a pas vraiment changé. On fait appel à eux. Finalement, c'est eux qui font autorité. Et donc, les jeunes n'écoutent plus, n'ont plus peur ni de la police, ni de l'autorité, ni de la loi. Mais c'est plutôt le religieux qui passe au-delà. Donc, c'est pas étonnant, finalement, qu'on puisse dire que les lois divines sont supérieures aux lois humaines. Parce que aussi, dans tous ces lieux et par ces imams, c'est de dire... l'important, c'est la loi de Dieu, l'important, c'est l'islam. Et donc, finalement, ce qui doit être appliqué, c'est la loi de la religion, en fait.
Oui, c'est le but recherché pour eux, d'imposer le religieux dans le politique.
Tout à fait.
Et ce qui nous protège de ça, donc là, je veux le souligner, c'est en France, quand on n'est pas encore là, ou après, enfin, peut-être pas au point de la Belgique, où les imams n'ont pas encore toute cette autorité, mais c'est notamment grâce au bouclier de la laïcité qu'il faut absolument préserver et qui est tellement critiqué dans le monde entier. C'est un bouclier pour le droit des femmes et le droit des humains.
Tout à fait. Et c'est ce qui perturbe en fait les religieux, c'est que quelque part la laïcité, le fait de mettre tout le monde, de mettre tout le monde à égalité, c'est-à-dire c'est de dire il faut respecter les individus. Évidemment, pas les croyances, on parle bien des individus qui ont le droit de pratiquer ou non une religion, qui ont le droit d'exister et qu'il faut respecter avec un même socle commun. Et c'est ce socle commun, finalement, qui va nous réunir et qui va faire un ciment, qui va faire qu'on va pouvoir se respecter, avoir les mêmes droits et se respecter les uns les autres. Mmh. Évidemment, ça ne les arrange pas, puisque eux, ils font bien une distinction entre les croyants et les non-croyants, leur objectif étant évidemment d'imposer la pratique, la religion. Mais ce qui est important aussi de rappeler, je pense, c'est vraiment la séparation entre les garçons et les filles, toute cette éducation qu'on va avoir.
Ségrégation sexuelle, quoi. En fait,
tout à fait. Qui vont du coup donner des frustrations sexuelles, des tabous, puisque la sexualité, on ne peut pas en parler. Ouais. Donc finalement, il y a une méconnaissance, aussi bien des garçons que des filles, sur qui et qui. C'est comme ça qu'on va avoir aussi des abus. Les garçons, finalement, on leur dit, tu ne peux pas toucher la fille musulmane, parce qu'elle doit être, elle doit être vierge, elle doit être pudique. Par contre, tu peux aller toucher celles qui ne sont pas croyantes, puisqu'elles, c'est des putes, ce sont des femmes qui sont faciles. Elles sont d'ailleurs là pour ça, en fait, pour que tu puisses t'entraîner. Comme ça, le jour du mariage, tu seras assumée et assurée. Et ça se dit vraiment à l'intérieur, d'une manière mais vraiment naturelle. Hein. C'est pas du tout...
Aussi, je reviens pas.
Et c'est avec ça que ces garçons et ces filles vont grandir. C'est pour ça que l'éducation, finalement... je pense que l'éducation des filles et des garçons, c'est important aussi de se dire que c'est par l'éducation qu'on fait évoluer les mentalités. Mais à partir du moment où vous êtes dans des familles qui sont déjà avec ces a priori, avec cette éducation-là, etc., c'est très difficile pour eux d'inculquer autre chose que finalement ce qu'ils ont appris. Le fait d'avoir des politiques qui ferment les yeux ne va pas aider, parce qu'on aurait pu très bien, on aurait pu rectifier. Mais au contraire, finalement, on n'a fait que... il y a eu un relativisme.
On les
a laissés...
maghrébine musulmane à dire qu'ils se débrouillent. Voilà. Mais c'est en fait les abandonner, quoi. Enfin, surtout abandonner les filles et les femmes, je dirais.
C'est ça. Et en fait, c'est finalement abandonner les garçons et les filles, les hommes et les femmes... Et finalement, c'est les religions qui prennent sous emprise. Et donc, on va voir petit à petit, dans les mosquées, quand on va vous dire les filles doivent porter un voile, donc on nous inculque de plus en plus, très jeune, vers 8-9 ans, on nous inculque qu'il faut porter le voile, même un peu plus jeune. Donc, plus jeune, on nous en parle, mais à partir de 8 ans, on va dire 9 ans, on commence à nous faire penser qu'il faut commencer à le porter. Parce qu'il faut s'habituer. Parce que, en fait, on vous dit que plus jeune vous le portez, plus vous pourrez vous habituer.
Ça semblera normal.
Au plus, vous aurez des difficultés à l'enlever plus tard. Et ça renforce, pour eux, ça renforce la foi. En réalité, c'est tout simplement en fait, de l'endoctrinement. Et c'est une manière aussi d'imposer quelque chose.
Par le corps sur le corps de la femme, une idéologie patriarcale. Enfin, je tiens à le souligner. Et là aussi, je pense que tu seras d'accord avec moi sur ce que c'est que le voilement. C'est pas un tissu.
Non, il, en fait, ce tissu qu'au départ, quand on voyait nos grands-mères, mais portaient un tissu, mais c'était, tout le monde le portait d'une différente manière. Il n'y avait pas un code et ce n'était pas quelque chose qui était dramatique. On n'allait pas non plus en faire tout un tatamarre parce qu'il y a un petit bout de cheveux qui dépasse, etc. Et puis, c'était, pour les grands-parents, on ne pensait pas tout à travers ce tissu. Alors que par la suite, dans les années 90, mais encore plus en 2000, le voile commence à devenir vraiment, il est dans les années 90, 2000, une autre signification. Il est un porte-drapeau. C'est aussi le fait, quand je vois une femme voilée, elle me renvoie l'idée que je suis une pute, que je ne suis pas une musulmane, tout court. Donc ça, on doit bien réaliser que c'est ça qu'on nous renvoie. Donc quand on dit que c'est finalement pas grave qu'une femme porte le voile, c'est faux, parce qu'elle renvoie
aux autres femmes
c'est un symbole qui représente, une symbolique, une signification qui est très forte, qui dit, mais toi, t'es une femme, tu es moins qu'un homme, t'es une soumise, tu dois préserver la pudeur, si tu ne le mets pas, toi qui ne le mets pas, mais toi, t'es une pute. Tu peux passer d'un homme à un autre. On peut abuser de toi. Si on abuse de toi, c'est tout à fait normal. C'est parce que de toute façon, t'es pas habillée comme il faut. Tu as provoqué le désir chez l'autre. Et donc,
voilà. C'est ce que signifie le voilement.
Et c'est ce que signifie le voilement.
C'est le corps de la femme.
C'est une visibilité.
Elle est coupable. Son corps est coupable. La sexualité est taboue en général et le problème vient des femmes.
Tout à fait.
C'est le patriarcat dans toute sa splendeur.
Voilà. Il y a ce volet-là et puis il y a aussi la visibilité de l'islam. C'est-à-dire se dire, il y a la visibilité
de prosélytisme.
De prosélytisme.
À travers les femmes.
De propagande à travers effectivement les femmes. Elles sont visibles parce qu'il faut. On va voir apparaître une visibilité dans notre quotidien, à l'extérieur, dans la rue, alors que quand on regarde dans les années 80, on avait des femmes et des hommes qui étaient habillés à l'occidental, quoi, normal, comme tout le monde, en pantalon, en robe, en jupe. Là, on commence à voir des personnes qui sont de plus en plus voilées. Alors au départ, c'est un petit voile, et puis alors ça commence à devenir un long voile. Donc au fur et à mesure, on va voir que dans les quartiers, ça va commencer à se replier, à se refermer. Et maintenant, quand on regarde, si vous marchez sur Bruxelles, on voit énormément de femmes et de jeunes filles voilées.
C'est difficile de résister. Donc toi, tu as pu résister et ne pas te voiler ?
Alors, moi, j'ai pu résister, j'ai pu ne pas me voiler. J'ai eu, quand j'étais jeune, des appels, ce qu'on appelle des appels, donc des rappels, pardon, où des jeunes garçons de mon âge, en primaire, me disaient « Ah, mais t'es gentil, t'es sympa, t'es tellement honnête, c'est dommage, tu pourrais être une bonne musulmane, dommage que tu ne portes pas le voile. » Et en fait, ça part des petites choses comme ça au quotidien, quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes chez vous, qu'on vous dit « Ah, mais attends, il faut que tu portes le voile parce que tu te rends compte, sinon tu vas brûler en enfer. Et si tu ne portes pas le voile, tu vas être suspendu par les... » Parce qu'on explique aussi l'enfer, comment ça va se passer.
Cette peur de l'enfer, terreur de l'enfer.
Voilà, donc elle est bien présente.
Qui fait obéir, en fait.
Voilà, après, il y a aussi le fait que on va se rendre compte que si on porte le voile, du coup, on nous autorise à sortir. Parce que du coup, on nous dit, vous êtes des bonnes musulmanes, donc vous pouvez sortir parce que vous respectez l'islam. Donc, certaines filles et certaines femmes vont utiliser le voile pour avoir un peu plus de liberté, enfin, penser qu'elles vont avoir plus de liberté.
Plus de tranquillité.
Plus de tranquillité. Mais c'est pas vraiment parce qu'elles veulent mettre le voile, mais c'est parce que derrière, c'est plutôt dire, j'en ai marre que ces hommes et ces garçons mettent la main aux fesses. Parce que c'est ce qui se passait. C'est que quand vous marchez dans la rue, on vous siffle, on vous interpelle, on vous dit « Est-ce que tu veux coucher avec moi ? Viens avec moi, salope. » Et si vous refusez et que vous ne répondez pas, on se faisait insulter. « T'es qu'une pute, etc. » et donc, on va avoir comme ça des jeunes filles qui vont commencer à porter le voile parce que ça leur permettait qu'on leur foute la paix. Donc voilà.
Ce qui est très triste, quoi, en fait. C'est juste, voilà, quoi. C'est une acceptation, une soumission, mais c'est tout, quoi.
Et c'est comme ça, finalement, voilà.
C'est pas une liberté, voilà.
Voilà. Et c'est comme ça qu'on inculque. Qu'on inculque l'idée que, et qu'on fait que les femmes, finalement, commencent à porter le voile et l'intégrer avec leur corps. Mais après, c'est très difficile de l'enlever, en fait. Mm-hmm. Parce qu'il y a le regard des autres change aussi quand vous commencez à le porter. Mm-hmm. On commence à vous respecter, on vous écoute un petit peu plus. Mais quand je dis écouter, c'est toujours dans le sens de l'islam. Il ne faut pas se leurrer. Si vous portez le voile et que par exemple, vous êtes pro-IVG ou que voilà, vous défendez les droits des femmes réellement, ça ne passera pas. Parce que là, on vous dira, mais attends, tu portes le voile, mais tu ne respectes pas l'islam. Donc, quand on dit respecter, c'est surtout parce que ça leur permet de pouvoir sortir, de ne pas être touchée, de ne pas... Voilà. C'est uniquement ça. Il faut bien parce que.
Oui, donc il y a une énorme. Enfin, ce que tu dis, ça souligne le fait que c'est impossible pour nous, enfin, évidemment, de défendre les droits des femmes et de défendre le voilement. Et que le voilement ne peut pas être féministe ni revendiqué comme une liberté, etc. Avec tout ce que tu viens de dire, on comprend très bien ça. Et du coup, d'où ma révolte, ma colère, comme toi, par rapport au néo-féminisme que tu dénonces. Et moi aussi, je trouve ça terrible de penser que des mouvements, des jeunes femmes actuellement occidentales, bon, par exemple, je prends l'exemple de la France ou même de Marseille, peuvent créer des collectifs avec le nom, je cite un collectif, ben, je le dis tout simplement, je le connais, ils sont connus, ils s'appellent Marseille Féministe. Et il y a une page, tout ça, et c'est pas pour faire la publicité. Au contraire, c'est pour dénoncer leurs revendications. Parce que dans les revendications pour lesquelles ils sont fiers, pour lesquelles ils tiennent à se distinguer, une des revendications de ce collectif Marseille Féministe, qui devrait plutôt s'appeler Marseille Patriarcale, d'après moi, eh bien c'est de dire, par exemple, qu'en France, la loi 2004 contre les signes religieux à l'école, qui permet aux filles de ne pas avoir de se libérer de ce voile, bien pour eux, pour ce Marseille Féministe, ils disent que cette loi est islamophobe. Voilà. Et je trouve ça... Voilà, je pense que c'est... Tu peux dire toi aussi ce que tu penses de ça.
En réalité, dans les écoles, les filles, quand il y a une interdiction du port du voile, elles soufflent.
Bien sûr.
Elles sont contentes. Évidemment, elles ne peuvent pas le dire parce qu'il faut bien réaliser aussi une chose, c'est qu'une femme musulmane ne peut pas dire, en réalité, au sein de sa communauté, sans se faire insulter, qu'elle est contre le voile, qu'elle ne veut pas le porter. Donc quand on entend ces féministes dire « oui, mais il y a des femmes qui disent qu'elles le portent librement », elles n'ont pas le choix que de dire ça. Si elles disent le contraire, elles seront accusées, elles seront rejetées, elles seront mises au banc. Donc la réalité, c'est que non, on ne peut pas, on n'est pas libre. Maintenant, il y a une différence, effectivement, entre le fait, on dit... Moi, je dis, je suis contre le voilement, je suis contre le voile, je ne suis pas contre les femmes. Donc, forcément, donc quand on veut nous faire passer souvent en disant « mais vous insultez les femmes, mais vous êtes, vous commettez des actes islamophobes », ce qui est faux, d'abord parce que le terme islamophobe, je n'utiliserai pas, qui est juste un terme qui veut remplacer le blasphème, qui veut nous interdire toute critique vis-à-vis de l'islam.
Qui a été inventé par les islamistes, en fait, voilà, ce terme-là, parce qu'ils confondent racisme et religion. Donc en fait, il assigne la critique d'une religion avec du racisme. Comment on peut...
Oui, contre une discrimination, alors que nous avons des lois en France et en Belgique qui défendent l'égalité, qui défendent les droits des êtres humains, quels qu'ils soient d'ailleurs. On n'a aucune loi, que ce soit en France ou en Belgique, qui dise qu'il faut discriminer les musulmans. Je veux dire, au contraire, on dit d'ailleurs que dans nos lois, c'est plutôt, vous devez respecter, il y a le respect de la pratique de la religion, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de critiquer une religion. Et c'est où il y a la nuance, où il faut faire attention. Et c'est là où il y a une perversion de la part de ces islamistes, de tous ces groupes qui viennent avec leurs revendications religieuses. Ils veulent nous imposer leur vision du monde. Et donc nous imposer par ce biais-là, en utilisant le terme islamophobe, etc., nous faire taire. Et c'est pour ça que quand on voit avec l'affaire Charlie Hebdo, Samuel Paty, Mila, etc., on voit bien que tous ces groupes Comme vous avez eu le CCIF, qui d'ailleurs je vous remercie parce que maintenant ils sont venus s'installer en Belgique, ils sont devenus le CCIE, ces groupes-là utilisent comme prétexte tous ces termes, ils utilisent sous le prétexte qu'il y aurait une discrimination grandissante dans nos pays, en France et en Belgique, ce qui est faux. Parce qu'il faut, tout le monde peut se rappeler que lors des attentats, juste après, la première chose que nos États ont fait, c'est d'appeler au respect, au calme, et justement à ne pas faire d'amalgame entre les musulmans et les djihadistes et les islamistes. Moi, je pense que c'est ce qu'on rappelle. Et c'est ce que finalement, nous, à l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, c'est ce que nous cessons de faire. C'est-à-dire rappeler le fait qu'il y a des différences entre le musulman qui va pratiquer sa religion et qui ne va pas essayer de l'imposer, qui ne va pas faire du prosélytisme et qui va respecter les lois de nos pays. Et puis de l'autre côté, vous avez ces islamistes, vous avez ces groupes qui veulent imposer une idéologie et qui finalement déstabilisent nos pays. Alors ils vont déstabiliser de différentes manières, hein. On le voit bien avec tous ces groupes... avec les néo-féministes notamment, etc. Mais ils vont utiliser certaines théories idéologiques pour justement venir avec leurs propres demandes. Leur objectif, ce n'est pas de s'unir avec les autres pour être solidaire avec les autres. En réalité, c'est pour utiliser finalement les autres pour ramener...
Ils sont très très malins quelque part. Voilà, ils sont intelligents, enfin intelligents entre guillemets. Mais ce qui est navrant, c'est de voir que des personnes puissent être dupes à ce point-là et croire à ces discours victimaires. En fait, ils retournent sans arrêt. Ils utilisent la liberté qui a été défendue, gagnée pendant des siècles pour se libérer, pour s'émanciper. Ils utilisent ça à l'envers, en fait. Pour faire croire que, voilà, que par exemple, le voile serait une liberté, qu'au nom de cette liberté, il y a des femmes qui revendiqueraient, etc. Alors que c'est vraiment malin de leur part, mais on ne peut pas être dupe, il suffit de réfléchir deux secondes. Mais voilà, eux sont malins parce qu'ils utilisent des concepts de droits humains, d'émancipation, des concepts féministes, mon corps, mon choix, etc. Ils les retournent, en fait, pour justement obtenir l'inverse, c'est-à-dire l'asservissement, la soumission, la non-liberté. Et voilà, leur but, leur vrai but, bien sûr, il est là.
Oui, tout à fait. En fait, ils utilisent effectivement... Ils utilisent la démocratie, ils utilisent nos différents termes pour justement imposer, donc, comme je le disais, leur vision du monde. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on dit... Il suffit de voir qu'est-ce qu'ils défendent. En fait, ils défendent toujours le voile. Ils défendent la séparation des hommes et des femmes et des heures différentes pour les femmes dans les piscines. On va voir à chaque fois les mêmes revendications. Mais est-ce qu'on on les a jamais vus parler des violences intrafamiliales au sein de la communauté musulmane? On les a jamais entendus défendre et de dire aux populations justement respecter les lois de nos pays, etc. Au contraire, on essaye de créer une peur au sein même de la communauté musulmane, avec l'aide évidemment de certains de nos gouvernements, de certaines personnalités qui ne veulent pas voir qu'il y a un problème justement avec l'islamisme, qui nie cet islamisme. Et donc finalement, on tourne en rond. Eux, ils gagnent du terrain. Ils sont très intelligents. Et c'est aussi ça que au sein de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, on a un pôle scientifique et d'expertise parce que nous estimons qu'il faut faire des recherches pour comprendre l'islamisme et tous ces phénomènes. C'est en faisant des études complètement indépendantes, parce qu'on se rend bien compte que dans les recherches actuelles en sciences sociales, que nous avons beaucoup de professeurs, beaucoup de personnes qui sont plus dans l'idéologie que finalement dans la recherche, qu'il y a aussi des financements qui viennent au niveau de l'Union européenne, de nos États. Et ça peut
expliquer bien des choses.
Voilà, et ça vraiment j'invite les gens à lire ce qui a été écrit dans Le Point par Florence Bergeau-Blaclair, l'Europe de la recherche et les financements des frères musulmans. Je pense que ça vaut la peine de le lire parce que ça nous permet de comprendre au final comment est-ce que ces structures ici dans nos différents pays arrivent à noyauter les différentes structures, que ce soit du monde académique, des médias, de la vie de tout ce qui est associatif, des groupes féministes universels, enfin qui était universaliste, mais qui du coup ont basculé, parce qu'on voit beaucoup de basculements aussi. Mm-hmm. Donc finalement, on voit par ce biais-là, on peut comprendre aussi comment est-ce que, pourquoi est-ce que cette tendance est en train de pencher vers les islamistes et ou collabore avec eux. Donc je pense que des recherches sérieuses faites par des chercheurs sérieux est importante. Et puis il faut aussi, et c'est le volet, en tout cas l'autre volet aussi de l'Observatoire, c'est de se dire, quand il se passe des choses, quand on voit par exemple en France avec le CCIF et nous en Belgique avec le CCIB, quand on voit des annonces, des choses qui ne sont pas conformes en fait à nos droits, qui viennent, qui risquent de déstabiliser nos pays, on les analyse et on va interpeller par les réseaux sociaux, on va essayer d'analyser, de faire comprendre, de tirer la sonnette d'alarme en disant attention, regardez là ce qui se passe. Parce que ces institutions sont financées. Donc, il est important quand même que nos États sachent qu'ils ont financé. Donc, bon, en France, vous vous en êtes rendu compte, il y a eu toute l'affaire autour du CCIF et de Baraka City. Mais nous, en Belgique, cette prise de conscience n'est pas encore faite. Et donc, on n'est pas encore écouté et entendu. Mais je pense que la France doit aussi se mobiliser par rapport à la Belgique, parce que si le CCIF n'a pas attendu la dissolution et a préféré justement créer une autre institution à Bruxelles, ce n'est pas pour rien. Nous avons toutes les institutions européennes, tous les lobbying, etc., sont à Bruxelles. Donc on a un concentré d'institutions sur Bruxelles qui fait finalement que ces institutions-là vont influencer de Bruxelles d'autres pays européens. Donc, et c'est là où moi j'attire l'attention de la France, où on pourrait se dire ah ouais, mais la Belgique finalement c'est un petit pays, on s'en fout. Mais non, et d'ailleurs l'histoire nous l'a prouvé, puisque quand il y a eu des attentats, on s'est rendu compte que pas mal de djihadistes venaient de Bruxelles, étaient ici des quartiers bruxellois. Donc je pense qu'il faut, il faut tenir compte des expériences antérieures et de se dire tenons à l'œil la Belgique et ce qui s'y passe réellement par rapport à toutes ces institutions.
Est-ce que tu as besoin peut-être, parce que du coup on était lancé, on n'a pas fait une pause musicale et peut-être tu aurais besoin juste aussi de reprendre un petit peu ton souffle. Et voilà, parce que je regarde, il reste un petit quart d'heure. Donc on va faire une petite pause musicale pour nos auditrices et auditeurs. Donc je suis en train de chercher, pardon. Voilà, parce qu'en même temps je fais la technique et... Voilà, j'ai trouvé. Donc, je vais vous proposer Suite Española. Voilà. Voilà, donc on reprend après la pause. Donc Fadila, je te laisse reprendre parce qu'on ne reste pas beaucoup de temps. Tu avais beaucoup de choses à dire. Donc voilà, je te laisse, je ne vais pas te faire perdre de temps.
Oui, donc on en était effectivement donc à l'idéologie, au financement, etc., de toutes ces structures finalement qui alimentent. Et c'est vrai que quand on dit bah, finalement... Quelles sont les solutions ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? À l'Observatoire des fondamentalismes, en tout cas, nous avons décidé d'ouvrir des permanences sociales depuis sa création. D'ailleurs, l'Observatoire n'est pas là que pour la Belgique. C'est vraiment au niveau européen que nous voulons agir. Nous voulons travailler aussi avec d'autres pays parce que nous pensons que l'islamisme, évidemment, touche différents pays et qu'il faut absolument qu'on puisse travailler et mettre nos forces en commun. D'autant plus que tous ces financements, sous prétexte qu'on lutte contre le racisme, contre les discriminations, finalement, vont surtout chez ces islamistes, dans des structures, des institutions qui finalement
parce
nous défendent.
Parce que l'antiracisme est devenu...
voilà, c'est un prétexte. En fait, c'est le prétexte.
En fait, voilà. Donc en fait, ils financent de l'antiracisme.
Voilà.
Quand on
en réalité, c'est un prétexte qu'ils utilisent uniquement pour avoir des subventions. Mm-hmm. Et finalement, eux reçoivent des subventions et continuent à alimenter ces idéologies-là auprès des populations. Mm-hmm. À l'Observatoire, justement, et je pense que c'est pour ça aussi que nous avons un vrai succès auprès des personnes, des citoyens, c'est qu'ils ont une bouffée d'oxygène, ils ont un lieu vers lequel ils peuvent aller discuter. Donc on nous contacte, on a aussi bien des personnes qui sont de confession musulmane qui nous contactent, qui en ont marre, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que finalement on parle en leur nom. Alors et ces structures, évidemment, se disent qu'elles sont le... qu'ils représentent les musulmans, ce qui est faux. En réalité, ils se représentent qu'eux-mêmes, leur idéologie qu'ils veulent imposer au reste des musulmans. Le problème et la difficulté, je pense, à l'heure actuelle, c'est que quand les États laissent faire, quand personne ne réagit, c'est que finalement, de plus en plus de musulmans risquent d'adhérer sans s'en rendre même compte. Et c'est pour ça que l'Observatoire des fondamentalismes veut absolument et est présente, c'est pouvoir se dire, attention, faites la différence. Des citoyens qui soient musulmans ou non musulmans se reconnaissent et donc viennent vers nous en nous disant, voilà, moi je veux bien témoigner de ce que je vis. Mais ils le font tout le temps, évidemment. Souvent, il est demandé que ce soit anonyme parce qu'on peut perdre son emploi, parce qu'on reçoit des menaces. On reçoit des menaces aussi bien verbales que ça peut être des menaces de mort, des insultes. Moi, c'est ce que depuis que je prends la parole, depuis que j'ose en parler et que je dévoile en fait tout ce vécu, je ne cesse de subir en fait des violences. On essaye de me bannir, de me retirer de la société. Et donc finalement, on en vient à perdre son emploi, on en vient à ne plus avoir d'espace de parole. Ouais. On n'a plus...
Ça, voilà, c'est scandaleux quand tu m'as expliqué ça. Hier, en parlant avec toi, je voulais vraiment des détails parce que je trouve ça incroyable voilà, que tu... voilà, on en arrive à il y a personne qui te défend, c'est tellement les gens ont tellement peur en fait que de parler de l'islam politique, de le combattre, que les seules personnes qui le combattent comme toi se retrouvent non seulement isolées mais même en danger. Voilà, c'est ce qui se passe pour toi, en fait.
Oui, j'ai de la chance quand même de travailler avec une équipe au sein de l'Observatoire, avec des personnes qui soient chercheurs ou qui soient des citoyens qui sont juristes, etc. Et donc qui donnent du bénévolat parce que nous ne recevons évidemment pas de subsides puisque nous dérangeons, évidemment, vu qu'on dénonce. Et le fait de dénoncer, le fait de montrer qu'il y a un problème, en fait, visiblement, actuellement, c'est un véritable problème. C'est vraiment c'est compliqué pour nous. Et donc je pense qu'il faut absolument que nos États réagissent, qu'ils puissent se rendre compte ce à quoi on a affaire, prendre au sérieux la question de l'islamisme et des islamistes. Les islamistes ne sont pas des idiots, non. Ils ne sont pas bêtes, ils sont loin de là. les militants et les
voilà, le nouveau parler, tout à fait, les concepts des
exactement,
voilà,
on utilise les femmes, voilà,
etc.,
tout à fait,
voilà.
On utilise les militantes, ça. Les militantes islamistes qui sont là, oui, aussi dans des différentes structures, oui, aussi pour imposer leur vision.
Le donc finalement, du voile en faisant croire que c'est leur choix, et voilà, ceux qui sont dupes, qui pensent que ah ben oui, c'est vraiment leur choix, mais toi et moi, on sait que ce sont des femmes endoctrinées d'islamisme. Mm-hmm. Tu le sais, tu me l'as expliqué, tu me l'as raconté, tu l'as vécu, tu as aussi... je me souviens de ça, pardon si je t'interromps, mais parce que je suis frappée par tout ce que tu m'as expliqué hier, heureusement qu'on a passé beaucoup d'heures à discuter, mm-hmm, et que tu avais infiltré, pour aussi que les gens sachent d'où tu viens, ce que tu as fait des recherches sur l'islamisme, tu as infiltré, mais... en fait, un milieu où il y avait une éducation donc, pour les jeunes filles, avec de plus en plus de jeunes filles, explique ça et que du coup voilà, on les endoctrine et ensuite elles vont porter le voile, elles vont porter cette parole, etc.
Oui, c'était dans le cadre d'un mémoire en fait de master en anthropologie où j'avais décidé de travailler sur ces questions-là, donc par rapport à la femme, et donc où j'ai été dans différents lieux, que ce soit des mosquées ou des événements comme des événements santé bien-être. Mmh. On voyait que finalement il y avait tout un processus qui faisait que les filles étaient amenées, même si elles portaient pas le voile au départ, mais elle finissait par le porter, et que c'était vraiment un processus d'endoctrinement. Et puis on voit aussi comment des personnes, finalement toutes ces filles, elles sont motivées à poursuivre des études pour aller dans différents lieux, universités, dans les hôpitaux, etc.
C'est ce qu'on voit aussi en
pratiquer,
France maintenant,
voilà. Donc pratiquer, mais avec évidemment toujours dans les normes islamiques. Et c'est pour ça que j'invite vraiment toutes personnes qui veulent comprendre comment justement les normes islamiques sont imposées dans nos sociétés, c'est vraiment de lire l'ouvrage de Florence Berjou-Blaclair, Le marché halal ou l'invention d'une tradition, qui explique vraiment bien ça.
Je mettrai les références, à ceux qui écoutent dans le podcast, de toutes ces références que je vais chercher, que tu vas me donner, tous les liens, mm-hmm, pour que les gens puissent retrouver, lire par eux-mêmes tout ça.
Tout à fait. Donc c'est une chercheuse au CNRS qui a fait du très bon travail à ce sujet et qui a très bien compris le phénomène et qui interpelle aussi énormément à travers ses recherches. Donc je pense que c'est des chercheurs comme ça qu'il faut absolument soutenir.
Qui sont très peu nombreux, visiblement, parce que...
Oui, tout à fait. Qui sont très peu nombreux, ou en tout cas, qui ne servent pas forcément la recherche, mais qui vont plus servir une idéologie.
Les autres plus nombreux sont ceux qui servent...
Exactement. C'est là où il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme et se dire, attention, il faut qu'il y ait... Parce que bon, je sais que ça a été un débat ici en France sur les chercheurs au CNRS, qu'il faille absolument revoir un peu au niveau des sciences sociales les professeurs, en tout cas, qui sont là plus pour donner cours, enfin plus pour transmettre une idéologie, que finalement réellement transmettre l'esprit critique aux étudiants. Et donc on est en train de fabriquer finalement des jeunes générations qui refusent la laïcité, qui vont refuser la laïcité, qui vont la rejeter, pour finalement adhérer à des concepts qui sont juste des concepts en fait qui dévoient en fait l'universalisme, qui dévoient en fait nos droits et qui nous mettent en danger et qui mettent en danger en fait nos pays en fait et la stabilité de nos pays.
Mmh. Voilà. Ben écoute, je pense que c'est bien, on peut conclure comme ça, puisque je vais mettre, donc, comme j'ai dit, toute la référence, et puis on va céder la place à l'émission suivante. J'espère que nos auditrices et auditeurs seront heureux de ce podcast, qu'ils auront appris des choses. Je pense que oui, je te remercie Fadila, puisque...
Merci à toi pour l'invitation.
Voilà. Moi, en tout cas, je suis très heureuse de t'avoir invitée. Et tout ça. Bon, je suis en train de chercher mon générique. Il y a juste ça qui ne marche pas. Bah, rien, du coup, ce n'est pas grave. Pour une fois, je ne mettrai pas mon générique. Ce n'est pas grave parce que je n'ai plus le temps. Je dis au revoir. Je te remercie. Et à une autre fois, parce que je pense que tu pourras revenir. Tu es la bienvenue pour une autre émission quand tu voudras. Au revoir.
Au revoir.